Comme chaque année, les jours qui séparent l'Ascension de la Pentecôte sont des jours très particuliers dans l'année liturgique, dans la vie de l'Église. Et c'est des jours où on peut dire que nous sommes invités à entrer dans une sorte d'école de prière, à prier avec la petite Église primitive dont nous avons entendu le récit tout à l'heure dans les Actes des Apôtres, au premier chapitre. Voilà ce qu'il dit pour ceux qui n'auraient pas bien écouté. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup, mais je le dis quand même. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller au ciel, l'ascension, retournèrent à Jérusalem. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement, donc au cénacle. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Oui, nous sommes invités à entrer dans ce cénacle et à nous mettre en prière avec toute l'Église, comme si nous étions cette petite Église primitive. Et même si nous sommes moins nombreux que d'habitude aujourd'hui, nous sommes encore plus nombreux qu'eux. Ils étaient tout petits, sans doute encore inquiets. Vous vous souvenez que dans l'évangile de Matthieu, vous avez entendu jeudi dernier, il nous est dit que certains eurent des doutes encore sur la résurrection de Jésus. Donc on voit que c'est une église fragile, très fragile, et pourtant ils se regroupent. Les Actes des Apôtres, Saint Luc, qui est le rédacteur, nous dit autour de Marie, avec Marie, la mère de Jésus. Et c'est sans doute Marie qui était le moteur de cette petite église primitive, trop fragile encore pour pouvoir aller diffuser la bonne nouvelle au monde entier, encore trop dans la peur et l'inquiétude. Et Marie gardera ce rôle dans l'Église de rassembler, d'inviter à la prière. Vous vous souvenez que nous sommes dans le mois de Marie. C'est sans doute pas un hasard si le mois de Marie, le mois de mai, le mois de Marie, c'est aussi le mois où justement on attend avec la petite église primitive l'événement de la Pentecôte. Et Marie, durant l'histoire, a toujours marqué le peuple catholique, le peuple chrétien, et a toujours marqué de sa présence ce peuple en lui rappelant régulièrement à prier. Dans les premiers temps de l'histoire de l'Église, Marie, tout en étant plus discrète que dans les temps qui sont les derniers, ceux d'aujourd'hui, étant plus discrète, il n'empêche qu'il y avait de nombreux miracles liés à la Vierge Marie. De nombreux sanctuaires du haut Moyen-Âge se sont mis en place autour d'une statue miraculeuse, d'une découverte étonnante autour de la Vierge Marie, d'un sanctuaire où Marie manifestait sa présence, mais rarement sous forme d'apparition. En tout cas, ce n'est pas connu de nos jours, parce que Marie se faisait discrète, mais rassemblait quand même le peuple chrétien dans des lieux spirituels pour qu'ils prient, qu'ils viennent prier. Par la suite, la Vierge Marie va apparaître de plus en plus souvent, et surtout dans ces temps derniers. On peut dire qu'il n'y a jamais eu autant d'apparitions que les deux, trois derniers siècles. Ça va s'intensifiant. On sait qu'aujourd'hui encore, il y a des lieux d'apparition que l'Église n'a pas encore pu approuver, puisqu'il faut le temps de vérifier que c'est bien que c'est bien catholique, que c'est des vrais lieux d'apparition. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des manifestations vraisemblables de la Vierge Marie encore dans notre monde aujourd'hui. Et Marie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit toujours la même chose. Pénitence, prière. La pénitence, c'est une invitation à la conversion. Exactement ce que nous avons essayé de vivre, ce que nous essayons de vivre dans le temps du carême, le temps, le Triduum pascal, où nous sommes invités à mourir avec le Christ et à vivre une véritable proximité de Jésus et à se laisser sauver par Jésus qui meurt et ressuscite pour nous et à ressusciter avec lui dans le renouvellement de notre baptême ou dans le baptême pour ceux qui seront baptisés, qui ont été baptisés la nuit de Pâques. Et puis ensuite, le temps pascal, c'est aussi un temps d'invitation à grandir dans la foi, de conversion pour vraiment adhérer à cette résurrection du Seigneur, que ce ne soit pas quelque chose d'abstrait. Vous savez que les statistiques sont terribles. Il paraîtrait que la moitié des catholiques ne croient pas à la résurrection. Et à mon avis, faut arrêter d'aller à la messe. Peut-être qu'ils ne vont pas à la messe non plus, j'en sais rien. En tout cas, c'est assez terrible, parce que je ne vois pas trop l'intérêt de vivre ce qu'on vit, si Jésus n'est pas ressuscité. Et justement, de nous convaincre de la résurrection du Seigneur, et de nombreuses apparitions, donc pendant le temps de Pâques, nous rappellent cette réalité concrète de l'apparition du Seigneur. Le Seigneur est vraiment ressuscité avec son corps. Certains l'ont touché, ils ont été transformés par ce contact. Et nous pensons en particulier à saint Thomas, qui s'écriera « Mon Seigneur et mon Dieu » et se prosternera devant Jésus. Voilà, le Seigneur essaie de nous convaincre de la nécessité de la conversion, de la foi, et la Vierge Marie rappelle continuellement cette conversion. Mais le deuxième aspect où elle dit, où elle insiste tout le temps, c'est la prière. Priez, priez, priez. On a mille excuses pour ne pas prier. Même nous, les consacrés, nous avons mille choses à faire. Vous y êtes pour quelque chose quand on est prêtre. Mais ce n'est pas grave, vous avez le droit. Mais en tout cas, on a mille choses à faire. Et on peut négliger la prière sous prétexte qu'il y a des urgences tout le temps. Et il y en a, c'est vrai. Mais les vraies urgences, comme dira le cardinal Coffi, ça m'a beaucoup marqué, il disait, les vraies urgences sont très très rares. Donc quand on a beaucoup d'urgences, c'est signe que ce n'est pas des urgences. Les vraies urgences sont, voilà, c'est très rare. Quand on fait un infarctus, par exemple, c'est une urgence, il faut prévenir le médecin. Mais après, quand le voisin le fait aussi. Mais sinon, après, le reste, est-ce que c'est des vraies urgences? À voir. Toujours est-il qu'il nous faut prier. Prier, c'est prendre du temps pour la prière. La Vierge Marie insiste, prière du chapelet, elle insiste à se tourner vers Jésus continuellement avec confiance. Mais aussi, nous pouvons rajouter, nous, la prière personnelle, et en particulier l'adoration eucharistique que nous avons instituée dans cette bientôt 10 ans, sur la paroisse, et qui a besoin d'adorateurs, non pas pour faire un exploit du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais parce que c'est une nécessité spirituelle de résurrection. Ça permet la résurrection de nos âmes, de nos vies spirituelles, mais pas que des nôtres, pour le monde entier. La prière, l'adoration, l'intercession, il nous faut prendre du temps pour ça. Mes frères et sœurs, tant que nous ne prenons pas du temps pour ça, arrêtons de nous plaindre. Prions d'abord, et après on en reparle. Voilà, et prions avec Jésus. Nous avons entendu Jésus dans cet évangile, il prie. C'est le chapitre 17, le début du chapitre 17. Vous savez, comme c'est séparé sur 3 années, on a la première partie du chapitre 17 aujourd'hui, ce dimanche, et dans un an, la deuxième partie, dans la troisième année, la troisième partie. Chapitre 17, qui est ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus, prière d'intercession où Jésus prie publiquement devant ses apôtres. C'est le seul endroit où il y a un moment où il apprend le Notre Père à la demande des apôtres, mais c'est le seul endroit où Jésus prie publiquement et il dit ce qu'il dit, il dit ce qu'il prie. Voilà, donc nous prions avec lui, unis à lui. La continuité de cette prière de Jésus, cette prière sacerdotale, c'est la prière eucharistique. La prière liturgique en général, mais la prière eucharistique en particulier, où finalement Jésus continue à intercéder auprès du Père. « Moi, je prie pour eux, » dit Jésus. Et nous sommes invités à prier avec lui. Et donc, pas que pour nous, pas que pour mes propres besoins, mais à prier, adorer le Père. Et Jésus va plus loin. Vous savez que quand Jésus prie, c'est juste avant son arrestation et sa crucifixion, l'offrande de sa vie. Et tout cela, et la résurrection, et tout cela, c'est une unité de prière. Juste avant la prière de Jésus, là, au chapitre 17, eh bien, il y a le discours de Jésus qu'on a entendu ces derniers dimanches. Et puis, juste avant, encore, l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds. Donc, tout ça, c'est une unique prière. C'est un unique mouvement du cœur de Jésus et de la vie de Jésus. Aussi, notre prière serait superficielle et pas complètement chrétienne si, au final, on n'offre pas sa vie avec Jésus. prier, c'est intercéder, c'est formuler des prières, invoquer les Esprits Saints, adorer. Mais prier, c'est s'offrir, hein, qui est très proche de souffrir aussi. Hein, parce que, comme le dit la deuxième lecture, communier aux souffrances du Christ. En précisant bien que la communion aux souffrances du Christ, il dit attention de ne pas souffrir pour des mauvaises actions. Hein, donc il met ça à part. On ne peut pas communier aux souffrances du Christ parce que simplement on a fait des bêtises et que finalement on en paye des conséquences. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas unir nos souffrances dans ce cas. Mais sinon, toutes les souffrances, et en particulier la persécution, peut être unie à la souffrance du Christ. Et nous sommes invités à vivre notre vie dans cette offrande. Prier, prendre des temps pour prier, prier l'Eucharistie comme source et sommet de notre vie, source qui nous aide à vivre notre vie, à prier correctement, à offrir notre vie, et comme sommet aussi, parce que cette offrande, notre prière quotidienne, cette offrande, eh bien, est invitée à être reprise par Jésus chaque dimanche à la messe. Et donc, il nous faut nous impliquer dans cette prière, dans la prière du Seigneur. Quand on prie, nous chrétiens, nous nous impliquons, on prie avec notre cœur. Alors, il y a une expression qui n'est pas très bonne, en fait, parce que j'ai cherché. Voilà, la différence entre prier, entre s'impliquer et se concerner, entre s'impliquer et être concerné, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est l'omelette au lardon. Hein. La poule est impliquée dans l'omelette, la poule est concernée par l'omelette, puisque c'est ses œufs, mais le cochon, il est impliqué. Bon. Et nous devons, alors d'habitude on dit ça pour dire qu'attention à ne pas s'impliquer trop dans son travail, tout ça, et ça c'est très bien. Mais par contre, nous, chrétiennement, nous devons vraiment être impliqués, nous devons offrir notre vie avec Jésus. Jésus donne sa vie. Et nous devons donner notre vie aussi au Seigneur dans notre prière, nous impliquer vraiment dans notre prière. L'Eucharistie est là pour nous y aider, nos souffrances peuvent être unies, autant dire que toute notre vie peut être prière, toute notre vie peut être une messe. On peut offrir, vivre toute notre vie dans une prière permanente, incessante, une véritable offrande, en union avec Jésus, et grâce à Jésus, porter du fruit. Dans notre vie, il ne s'agit pas de faire plein de choses. Il y a des gens, aujourd'hui, comme toujours, il y a des gens qui peuvent faire très peu de choses. Eh bien, si ça se trouve, c'est eux qui portent le plus de fruits pour notre monde. Pas automatiquement, ça dépend de ce qu'ils font de leur vie. Mais s'ils s'offrent, s'ils prient, s'ils s'offrent leur vie dans la vie de Jésus, le Seigneur fait porter du fruit. Il y en a d'autres qui font plein de choses. C'est de la paille. Il ne reste rien. Donc demandons au Seigneur de découvrir cette prière, cette manière de prier, cette manière de s'impliquer dans la prière, de se donner avec Jésus, de s'offrir et de souffrir aussi avec lui. Toute notre vie, tous les aspects de notre vie peuvent être offerts à Jésus dans notre prière. Voilà, et puis tout cela, on ne peut le vivre que dans l'Esprit Saint, et c'est ce que nous invoquons maintenant, c'est l'Esprit Saint, et je veux terminer par cette prière. Une des prières du saint cardinal Henri Newman à l'Esprit Saint, pour nous aider à l'accueillir vraiment. Seigneur Jésus, inonde-moi de ton esprit et de ta vie. Prends possession de tout mon être, pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne. Rayonne à travers moi, habite en moi, et tous ceux que je rencontrerai pourront sentir ta présence auprès de moi. En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur. Demeure en moi, et alors je pourrai, comme toi, rayonner, au point d'être à mon tour une lumière pour les autres. Lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi. C'est toi qui, à travers moi, illumineras les autres. Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, la louange que tu préfères, en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent. Par la plénitude éclatante de l'amour que te porte mon cœur. Amen. Voilà, et puis, si vous avez encore un peu de temps pour prier, je vous inviterai à prier pour moi, puisque aujourd'hui, je fête mes 28 ans de sacerdoce. J'ai été ordonné le 21 mai 1995. Merci.